pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 10h heure de Paris, 9h temps universel, 20 minutes donc pour commenter l'actualité de votre choix, pour revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. Et nous allons commencer avec cette rencontre annoncée, rencontre qui n'a finalement jamais eu lieu, celle du président congolais Denis Sassou Nguesso et du président américain élu Donald Trump. Vous êtes plusieurs à souhaiter commenter ce fiasco pour beaucoup d'entre vous. Il s'agit là d'un fiasco diplomatique. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Tours, vous êtes dans le centre-ouest de la France pour être très précis. On vous écoute sur cette polémique autour de la rencontre ratée.
Oui, mais cette rencontre ratée est un fait des politiques de Brazzaville. Les hommes politiques de Brazzaville ont cru qu'il fallait relancer le président Denis Sassou Nguesso sur la scène internationale après son camouflet des élections qu'il a usurpées. Et ils ont organisé donc une rencontre avec Donald Trump, sauf que cette rencontre n'avait pas été prévue du côté américain, et le président congolais a quand même fait le déplacement de Brazzaville jusqu'aux États-Unis, où il a forcé les portes de Donald Trump, qui n'a jamais voulu le recevoir.
Enfin, il n'a pas forcé la porte de Donald Trump. Hein. Alors, c'est une image. C'est vrai qu'il s'est rendu en Floride sans être certain de rencontrer Donald Trump. Pourtant, le 26 décembre, Brazzaville annonçait que le gouvernement congolais, que le président congolais serait reçu par le président élu américain. D'ailleurs, curieusement, le tweet de Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement, qui annonce cette rencontre, est toujours en ligne. Hein. Il n'a pas été retiré, je viens de regarder à l'instant, il est toujours en ligne. Et le lendemain, donc après ce tweet, un porte-parole de Donald Trump affirme qu'il n'y a aucune entrevue prévue. Et d'ailleurs, Donald Trump ne rencontrera aucun chef d'État étranger avant son investiture, donc avant le 20 janvier. Vous en concluez quoi, Jacques ?
Ben, c'est une honte pour l'Afrique, parce que non seulement ils ont fait tout un tapage avant que le président Sassou Nguesso ne fasse le déplacement, ils ont fait tout un tapage à la télé congolaise, et après cela, au lieu de rentrer tranquillement chez lui, ils ont fomenté une fausse rencontre. Ils ont monté des images entre le président Sassou Nguesso et Donald Trump, comme quoi il s'était rencontré avec une poignée de main bien cordiale. La photo a fait le tour du...
Alors cette photo est un gros trucage. C'est une photo qui circule sur les réseaux sociaux, et il me semble qu'à l'origine cette photo c'est une photo que vous avez dû voir certainement, mais sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne suis pas certain que la télévision congolaise l'ait diffusée, et je pense d'ailleurs qu'elle ne l'a pas diffusée. Restez en ligne, Jacques. Christian nous appelle de Brazzaville, toujours sur cette polémique. Bonjour Christian.
Bonjour.
Vous ne comprenez pas l'ampleur que prend cette affaire.
Naturellement. Et d'ailleurs, les commentaires de mon prédécesseur l'illustrent parfaitement. Hein. Prétendre que ce montage photo est du fait des autorités de Brazzaville, c'est bien la preuve que tous ces commentaires visent essentiellement à salir, n'est-ce pas, un pouvoir qui est en place et qui tente de gérer au mieux son pays. Pour revenir sur cette histoire, le Congo ou la diplomatie congolaise est des grands rendez-vous africains des 40 dernières années. C'est dire que la compétence, n'est-ce pas, le professionnalisme de nos diplomates est reconnu. Hein, les succès sont légion, l'affaire Mandela en fait partie. Donc, il ne peut y avoir de déplacement d'un chef d'État sans que ses services diplomatiques aient fait leur travail. C'est dire pour moi qu'il y a présomption, difficilement réfragable, de ce qu'il y avait effectivement rendez-vous et que ce rendez-vous a nécessairement été saboté.
Ouais. Enfin,
parce que je ne peux pas imaginer.
Vous ne pouvez pas imaginer, en tout cas le porte-parole, excusez-moi, mais un des porte-paroles de Donald Trump a été très clair. Hein. Il a affirmé très très rapidement qu'aucune entrevue était prévue. Donc ça signifie qu'à aucun moment il a été question que Donald Trump reçoive le président Denis Sassou Nguesso. Il y a eu démenti formel du camp Trump.
Mais naturellement, vous dites bien démenti, moi je parlerai du fait de se dédire, faisant confiance à des professionnels qui n'y seraient jamais allés s'ils n'avaient pas effectivement un accord de principe clair.
Donc pour vous, il n'y a pas eu, Christian, il n'y a pas eu de raté pour vous?
Mais je continue ma réponse. Il a été démontré que le futur exécutif américain a une très mauvaise connaissance des questions internationales. Et les tergiversations et les atermoiements sur des questions dont ils n'ont pas la maîtrise peuvent très bien se comprendre. Je ne peux pas croire qu'un président de l'expérience de M. Denis Sassou Nguesso puisse faire un déplacement aussi hasardeux. Par contre, il est plus facile de croire que M. Trump, tout au moins son administration, puisse avoir des positions hasardeuses.
D'accord.
Hasardeuses pourquoi ? Même si par extraordinaire, excuse-moi, pourquoi ? Même si par extraordinaire, il n'y avait pas eu une rencontre formellement ficelée, mais écoutez, faire une telle gêne à M. Denis Sassou Nguesso, eh ben, c'est quelque part se refuser la contribution d'un homme qui, pour des questions au sud du Sahara, est incontournable.
Bon, en tout cas, l'opposition, évidemment, s'en donne à cœur joie. Paul-Marie Mpuele, qui est le président du Parti des Républicains, dénonce une honte nationale. Il dénonce un tourisme présidentiel, puisque le président Denis Sassou Nguesso et sa délégation s'est rendu aux États-Unis, précisément en Floride. Dans l'entourage de Guy Brice Parfait-Colella, on dit que c'est clairement un fiasco. Bref, on vous a donné la parole à tous les deux. Merci de nous avoir appelés, Christian à Brazzaville et Jacques qui nous écoute à Tours sur Internet. 33 9 693 693 70. La Gambie où les deux prochaines semaines seront cruciales puisque le président Yahya Jammeh est censé rendre son pouvoir, en tout cas son mandat expire officiellement le 19 janvier et coûte que coûte il refuse de reconnaître sa défaite face à l'opposant Adama Barrow. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Ouagadougou. Plus on s'approche de la fin de son mandat, donc dans deux semaines, plus il serre la vis, plus il verrouille le pays. Et vous dites, Maurice, il faut absolument, absolument une solution diplomatique.
Oui, et d'abord mes meilleurs vœux de santé et de courage pour 2017.
Merci.
Effectivement, je souhaite vraiment qu'on évite l'affrontement, la violence en Gambie. Et je pense que pour éviter cela, il faudrait que les chefs d'État soient fermes. Parce que lorsque on est ferme et tout le monde est unanime, ça va permettre de donner un message clair à Yahya Jammeh afin qu'on évite l'usage de la force. Parce qu'il faut éviter l'usage de la force qui va créer des problèmes aux populations de Gambie.
Oui, Maurice, quand vous parlez de l'usage de la force, je rappelle aux auditeurs que la CDAO, donc l'organisation ouest-africaine régionale, n'exclut pas l'option militaire pour dégager Yahya Jammeh du pouvoir s'il ne souhaite pas se retirer et reconnaître le verdict des urnes.
Oui, je pense qu'on peut éviter l'usage de la force. Si tout le monde est unanime, si tous les chefs d'État sont unanimes, et même ses propres amis, parce qu'il semble qu'il y a au moins un chef d'État qui est ami de Jammeh, je crois que ces chefs d'État doivent donner un message ferme et aussi dire à Yahya Jammeh qu'il n'y a pas d'issue. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que si Yahya Jammeh arrive à rester au pouvoir, ce serait un précédent dangereux. Aucune démocratie ne pourrait perdurer en Afrique de l'Ouest ou en Afrique parce que c'est un message de désespoir pour les populations. Et je pense que ces dernières semaines, Yahya Jammeh a continué à aller de l'avant, une fuite en avant avec la nomination de magistrats pour venir déclarer sa réussite ou sa victoire. Et tout cela n'augure pas de bonnes choses pour l'Afrique et pour la Gambie.
Il a nommé effectivement plusieurs magistrats au sein de la Cour suprême qui va statuer sur la plainte déposée par Yahya Jammeh mardi prochain. C'est pour ça que je disais que les deux semaines qui s'annoncent là sont cruciales. Il a fait fermer des radios privées. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Le président de la commission électorale a quitté le pays cette semaine. Il s'est exilé au Sénégal. En tout cas, lui est très clair. Il dit ne pas avoir peur de la CDAO, même si elle intervient militairement. Ses propos lors de ses vœux à la nation gambienne ont été clairs. Nous sommes prêts à défendre ce pays contre toute agression. La perception de la situation par la CDAO est totalement illégale. Cela viole le principe de la non-ingérence dans les affaires d'un État membre. Le bras de fer risque donc de s'accentuer dans les prochains jours en Gambie. D'ailleurs, on en parlera lundi. On vous donnera la parole durant 20 minutes sur cette actualité. Merci à vous, Maurice. Bonne journée à Ouagadougou. Au Burkina Faso, Ousmane nous rejoint. Il est à Paris. Bonjour Ousmane.
Bonjour Juan, bonne heureuse année. Bonjour à tous les auditeurs de RFI qui nous écoutent en Mauritanie.
Vous êtes mauritanien vous-même et on vous souhaite également une belle année. Vous nous interpellez, vous, sur la polémique suscitée par les propos d'Hamid Chabat, qui est le secrétaire général du plus ancien parti politique du Maroc. Au cours d'un meeting, il a déclaré que la Mauritanie était une terre marocaine. Alors évidemment, tollé général à Nouakchott, à tel point que le Maroc a dépêché de toute urgence une délégation en Mauritanie avec à sa tête le Premier ministre. Vous, Ousmane, en tant que Mauritanien, vous n'êtes pas surpris par les propos de cet homme politique marocain ?
Oui, c'est une déclaration très hasardeuse parce que c'est une position très ancienne du parti de l'Istiqlal sur les prétentions marocaines sur le territoire mauritanien. Mais il ne manquerait pas d'arguments historiques et juridiques pour réfuter cette thèse de Rabat sur le territoire mauritanien.
Alors c'est pas une thèse, excusez-moi, ce n'est pas une thèse de Rabat, hein, c'est la thèse d'Hamid Chabat, de cet homme politique, hein, puisque très rapidement le gouvernement marocain a dit que les propos de cet opposant, enfin d'Hamid Chabat, n'engageaient que lui. Et à aucun moment c'était la position du roi Mohamed VI, c'est la position officielle du gouvernement marocain.
Oui, la position actuelle du roi est très courageuse pour respecter le bon voisinage et des relations séculaires entre les pays, mais ça a été toujours un point crucial pendant l'histoire de la Mauritanie depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, que cette indépendance qui est irréversible par des faits des traités internationaux qui ont arrêté cette polémique depuis novembre 1953.
Mais lui-même a reconnu que ses propos avaient été sortis de leur contexte. Il a aussi présenté ses excuses à Hamid Chabat. En tout cas, les relations, elles sont tumultueuses entre le Maroc et la Mauritanie. Que se passe-t-il ? Vous qui êtes mauritanien, comment vous l'expliquez ?
Bon, je l'explique, c'est par le fait de l'existence du problème du Sahara occidental qui dure depuis 40 ans et qui est aux frontières nord de la Mauritanie et que le Maroc doit prendre une position très courageuse pour organiser le référendum autodétermination pour que le peuple sahraoui décide de son avenir.
C'est-à-dire que ce que reproche le Maroc c'est à la Mauritanie, c'est de laisser traverser la frontière sans problème aux membres du Front Polisario qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental. En tout cas, cette brouille est la énième brouille hein, entre le Maroc et la Mauritanie. Merci Ousmane de nous avoir appelé de la région parisienne. On vous souhaite évidemment une bonne journée. Je vous le disais tout à l'heure, en première partie d'émission, beaucoup de réactions sur la République démocratique du Congo après cet accord signé donc samedi dernier. On en parlait avec Sonia Rollet tout à l'heure. Accord entre la majorité présidentielle et le rassemblement de l'opposition. Des points de vue divergents. André, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Juan, meilleurs vœux.
Merci, bonne année à vous. Merci d'écouter, comme vous le pouvez, RFI à Kinshasa. Vous êtes satisfait ou pas de cet accord ?
Je suis pas du tout satisfait. Coup de chapeau aux pères évêques de la CENCO pour avoir essayé de sauver ce qui peut être sauvé. Mais je suis sceptique quant à l'application de cet accord pour deux raisons. Premièrement, je ne vois pas la bonne foi du côté de la majorité présidentielle. Parce que s'ils n'ont pas pu organiser les élections en 5 ans, je ne crois pas qu'en une année, ils seront capables de les organiser. Deuxièmement, c'est par rapport à la médiocrité de la classe politique congolaise. Donc, comme il s'agira du partage du gâteau, du pouvoir, ils vont entrer dans des querelles interminables et puis ça va prendre du temps.
Vous avez vraiment l'impression que l'opposition, ce qu'elle recherchait avant tout, c'était le partage du pouvoir?
Ah oui, hein, oui, mais c'est clair maintenant, parce que ils nous ont parlé du départ du président Kabila, et pas un jour après tout ça, mais maintenant ils ont accepté les glissements, ils ont accepté d'entrer au gouvernement.
Attendez, mais à un moment donné, quand il y a crise, il faut trouver un compromis. Le compromis qui a été trouvé, c'est oui, Joseph Kabila, alors que son mandat expirait, je le rappelle, le 20 décembre, oui, Joseph Kabila peut rester au pouvoir durant un an, et en contrepartie, le Premier ministre du gouvernement de transition sera issu de l'opposition. Ce n'est pas un bon compromis, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une co-gestion du pays durant les prochains mois.
Non, alors à quoi auraient servi tous les morts? Les jeunes gens qui sont morts le 19, le 20 septembre, et puis en octobre, en novembre ici, et au mois de décembre. Si ce n'était que pour arriver à un partage de gâteaux. Ouais. Donc, en tout cas, je ne vois pas en quoi est-ce que ça... Juan, il y a tout ce entre ce que veulent les politiciens et les attentes de la population. Je vois ça, Kinshasa.
Ouais, pour vous, il y a un décalage énorme entre vos souhaits, à vous, citoyens, à savoir donc que des élections, c'est ça, ce que vous attendez, c'est des élections libres, transparentes, voilà. Le plus vite possible.
Oui.
Ouais.
Oui.
On aura l'occasion d'en reparler, c'est promis, vu le nombre d'appels qu'on reçoit sur la situation en République démocratique du Congo. On avait prévu d'autres auditeurs également, mais je voudrais qu'on termine quand même, puisque c'est aujourd'hui ou jamais, on va pas y revenir la semaine prochaine, on va revenir sur le sacre de Riyad Mahrez. Hier soir, à Abuja, au Nigeria, il a été désigné par la Confédération africaine de football comme le meilleur joueur africain de l'année. Marcel, vous êtes à Paris?
Oui, bonjour Juan et heureuse année à vous et à votre équipe.
Merci de vos encouragements. Vous saluez ou pas cette décision Riyad Mahrez, elle vous semble logique?
Ça me semble très logique, je le salue parce que je le pressentais, parce que c'est un joueur qui est très complet, qui a été le meilleur joueur africain à être reconnu en Ligue anglaise. Ni Drogba, ni Yaya Touré ne l'ont été par le passé. Il est collectif. En surface de réparation, lorsqu'il fait un crochet, il fait toujours mouche à la façon Thierry Henry. C'est un garçon qui montera encore en puissance. Et il est normal que ces jeux ne soient reconnus, qu'on ne reste pas sur l'ancien système où Drogba et Yaya Touré ont eu plusieurs trophées et que des jeunes qui montent n'ont pas l'occasion d'avoir le trophée.
Bien sûr. Et évidemment, mais enfin, la saison dernière a été excellente évidemment pour Riyad Mahrez. Cette saison, elle est plutôt moyenne. Et encore, je reste courtois en disant moyenne. Elle est médiocre.
Elle est très médiocre parce que l'équipe n'est plus la même. Il y a eu des changements. Et puis, il est évident qu'une équipe qui vient de deuxième division et qui est sacrée championne
d'Angleterre.
L'Angleterre ne peut pas tenir deux ans, trois ans.
Oui, enfin, un qui est constant, excusez-moi, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Il a eu le titre l'année dernière. Il pouvait décrocher légitimement un deuxième titre consécutif. Patrick, bonjour. Patrick, à Libreville.
Oui.
Bonjour.
Oui, bonjour.
J'imagine que par patriotisme, déjà, puisque vous êtes gabonais et que Pierre-Emerick Aubameyang est gabonais, déjà, vous êtes déçu.
Oui, je suis très déçu. Et non seulement je suis gabonais, mais en plus, je constate que Aubameyang a eu quand même une constance en termes de prestations. Et je suis un peu déçu qu'il n'ait pas eu son deuxième ballon d'or. Voilà.
Ouais. Et pourquoi méritait-il un deuxième ballon d'or, même si le terme ballon d'or n'est pas approprié, puisque le ballon d'or africain n'existe plus depuis des années, mais enfin.
Oui, enfin. Oui, mais tout simplement parce que je regarde, il a été meilleur joueur du championnat allemand. Il a une constance en termes de prestations, nombre de buts marqués. Là, sur 15 matchs, il a 16 buts. Bon, écoutez, c'est un joueur, un pilier de l'attaque de Borussia Dortmund. Vous savez quand même que le champion allemand fait partie des champions de référence. Donc, de mon point de vue, je crois, en termes de constance, il aurait dû mériter un deuxième ballon d'or. Mmh. C'est vrai que je reconnais aussi l'instance de la prestation de Mahrez, qui, avec Leicester, qui a un club qu'on ne connaissait pas au championnat anglais, et qui était champion l'année dernière, et Mahrez était un des piliers. Oui. J'en conviens quand même qu'au niveau de ses prestations, c'est un joueur de référence pour l'Afrique. Mais au niveau des Aubameyang, je crois qu'Aubameyang est quand même le meilleur.
Bon, ouais. Bah écoutez, c'est votre point de vue. Peut-être que l'année prochaine, il décrochera un deuxième titre. Merci à tous les deux. D'autres auditeurs souhaitaient s'exprimer sur justement les prix, les trophées de la CAF, Confédération africaine 2016. Voilà, on en reparlera peut-être un jour, mais on laissera la place à d'autres sujets d'actualité. En l'occurrence, lundi. Lundi, on parlera de la Gambie, puisque je le disais tout à l'heure, les deux prochaines semaines seront cruciales. Plus on s'approche du 19 janvier, donc de la fin du mandat de Yahya Jammeh, plus le président sortant verrouille le pays, il serre la vis. Comment le convaincre de reconnaître le verdict des urnes? On en parlera évidemment lundi tous ensemble. Et j'en profite pour vous signaler que mardi, RFI vous proposera une journée spéciale Barack Obama, puisque mardi, Barack Obama fera ses adieux au peuple américain. Ce sera son dernier discours qu'il prononcera à Chicago. L'occasion pour nous de dresser un bilan et de répondre à toutes vos questions.